pourquoi, par exemple, le semeur jette-t-il du grain sur le chemin? Ça peut paraître idiot. Hein, nous, on se dirait, gardons notre grain pour le mettre là où il y a de la terre.
Une servitude de passage.
Eh bien, parce que, en fait, c'est là qu'on a découvert qu'à cette époque en Palestine, on commençait par semer et ensuite on labourait, y compris le chemin. Donc, donc on sème sur le chemin d'accès et ensuite le chemin d'accès, ben, on va le labourer. Et parce qu'il n'y a pas trop de terre et donc voilà. Et ça, par exemple, c'est Joachim Jeremias, un exégète allemand des années 30, qui en étudiant les méthodes des qui a, parce que bon, les techniques agricoles avaient quand même survécu longtemps dans les pays arriérés, eh bien, s'est rendu compte que ben voilà, c'était comme ça. Donc, et ça permet d'éclairer, et du coup, ça donne un élément d'authenticité au texte. Alors aussi, l'utilisation du genre littéraire apocalyptique permet aussi de ne pas prendre les catastrophes pour des prédictions, mais plutôt pour des avertissements, ainsi des appels à la conversion ou à la foi. Sinon, alors on a tendance, nous, à prendre l'Apocalypse au, presque, parce que finalement, le lecteur moderne, souvent un lecteur idiot. Hein. Les lecteurs anciens étaient beaucoup plus subtils, hein, parce que non seulement les textes sont écrits en plusieurs dimensions, mais le lecteur raisonnait en plusieurs dimensions aussi.
Oui, c'était plus proche de son
voilà, et voilà, exactement. Donc, ils ne prenaient pas tout pour argent comptant. Regardez, nous aussi, c'est quand on dit, par exemple, vous qui venez de Normandie, quand on dit qu'il pleut des hallebardes, bon, c'est clair qu'on ne va pas sortir avec un bouclier en se disant « je vais être transpercé » ou « il pleut des cordes
». En anglais,
«
cats and dogs ».
Oui, « chats et des chiens ». Eh ben, et donc, on voit bien qu'il s'agit d'un genre littéraire qui va, comment dire, exagérer, une exagération, mais dont l'auditeur n'est pas dupe, ou le lecteur n'est pas dupe. Mais parfois, justement, ces exagérations des anciens, comme on a quand même des siècles et des siècles d'écart, parfois on ne les perçoit plus et on les prend au pied de la lettre. Quand on nous dit, par exemple, qu'Israël sortit avec 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes, les enfants, etc., etc., en fait, l'auteur va nous dire qu'ils sont tous sortis et que ça faisait du monde. Maintenant, il n'y avait pas 2 millions ou 3 millions de gens qui se promenaient dans le désert pendant 40 ans.
Hein, c'est la CGT qui fait...
Voilà. Oui, c'est ça.
L'apocalypse, c'est avertissement que...
Alors, c'est plutôt un avertissement qu'une... Oui, c'est
ça.
Oui, oui. Et donc, s'il faut le prendre avec des pincettes... Hein, bien sûr, quand on entend parler, par exemple, dans le livre de Daniel, de la succession des royaumes là, qui sont puissant au plus faible, alors c'est facile, on a envie de se dire, oui, d'abord ce sont les Assyriens, puis les Babyloniens, puis les Grecs, puis les Romains, puis etc. En fait, non, il y en a. On ne sait pas très bien, hein. L'auteur, on ne sait pas très bien à quelle époque il a vécu non plus, on ne savait pas non plus exactement ses connaissances historiques. Donc, ce sont souvent nous, on fait parfois des interprétations qu'on croit littérales. Les pères de l'Église, eux, ils étaient moins dupes. Ils faisaient une interprétation directement spirituelle s'appuyant sur le texte qui était un prétexte. Mais... nous, on prétend comprendre le texte littéral, mais parfois on le comprend de travers, parce qu'on ne va pas assez loin. Alors ça, c'est donc la troisième étape, l'étape de l'histoire de la forme. Et après, on arrive à l'étape de la critique des traditions, ce que les Allemands appellent la Traditionsgeschichte, l'histoire de la tradition. Il s'agit donc de situer les textes dans les courants de tradition, ce qui peut permettre... de préciser leur sens. Par exemple, l'insistance sur l'unicité du lieu de culte, eh ben, ça change de sens selon qu'on est dans le royaume du Nord ou dans le royaume du Sud. Dans le royaume du Sud, c'est Jérusalem. Si on est dans le royaume du Nord, alors, et du coup, ça veut dire, si on, si on est dans le royaume du Nord et qu'on plaide pour l'unicité du lieu de culte, c'est-à-dire finalement Jérusalem, en fait, c'est qu'on est, on n'est pas dans la ligne. C'est-à-dire on risque de se faire taper sur les doigts par les autorités du royaume, qui, elles, au contraire, essaient de se départir de l'unicité pour ne pas être soumis à Jérusalem, au petit royaume du Sud. Et au contraire, si on est un des prêtres ou je ne sais quoi du royaume du Sud, ben, en fait, on ne fait qu'exprimer la doctrine royale. Et là, on reçoit une couronne de laurier de la part de... Enfin, pas de laurier, évidemment. Mais enfin, on est bien vu par le pouvoir. Par contre, si on est au Nord et qu'on dit la même chose, on est très mal vu. Parce qu'on on passe pour un traître. Donc, vous voyez, selon la tradition, selon le lieu où on est, eh ben, le même texte n'aura pas le même sens, d'une certaine manière. Dans un cas, ça sera un texte de dénonciation, en quelque sorte. Dans l'autre, ça sera un texte qui sera l'expression d'une doctrine. Alors, après, on a encore... La cinquième étape, c'est celle de la critique de la rédaction, ce que les Allemands appellent « Redaktionsgeschichte », et où on étudie les modifications que les textes ont connues avant leur fixation définitive. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire de la rédaction du texte, avant la forme définitive, qui est la forme, pour nous, la forme canonique. Et c'est cette forme canonique qui fait autorité. Alors, le problème de la critique historique, c'est qu'elle prétend que plus c'est vieux, plus c'est authentique. Donc, elle aura tendance à, comment dire, considérer la forme canonique comme le dernier avatar de la production du texte, et donc pas le plus signifiant pour... Si on fait abstraction de la foi, donc du Saint-Esprit qui a inspiré les textes, on se dit la dernière forme du texte, c'est peut-être une amélioration, c'est peut-être une détérioration, mais ce n'est pas le texte original. Et on considère que ce qui est valable, c'est le texte original, qui est plus près du fait, puisque quasiment tous les textes bibliques sont des récits, plus près du fait original. Et comme l'idée historique, c'est de toucher les faits, vous voyez qu'en plus, c'est une méthode qui n'arrivera jamais à son objet, puisque un texte même qui relate un fait, il est déjà une interprétation. On ne voit pas le fait, on voit simplement la relation du fait. Et quiconque relate un fait est fatalement un interprète. Il suffit de voir, par exemple, quand Fanny Borneau là, s'est fait renverser par une trottinette électrique, il y a eu des témoins qui sont... Il y a un qui a dit qu'elle est tombée avant que la trottinette lui rentre dedans, et un autre qui a dit qu'elle est tombée à cause de la trottinette. Et en fait, il a fallu attendre les examens aux urgences pour essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais vous voyez que même un fait qu'on relate d'une manière la moins composée possible, en disant simplement ce qu'on a vu, ben on ne voit pas la même chose. Et alors, non seulement on ne voit pas la même chose, mais souvent, en plus, on habille la chose dans son langage. Parce qu'en plus, on a des perspectives. Hein. Tel fait va confirmer une idée qu'on a, ou il va l'infirmer. Alors donc, on va lui donner plus d'importance ou moins d'importance. Vous voyez comment... finalement, les textes, c'est très compliqué. Hein. L'objectivité dans le texte, c'est encore une imbécilité de moderne. Hein. Et de moderne, de vraiment très moderne. Hein. Je pense que jusqu'aux années 50, personne n'était dupe de l'objectivité d'un texte. Hein. Mais Maintenant, on s'imagine que écrire, c'est photographier. Et vous savez encore que les photographes, encore, sont capables de vous faire des... La prise de vue peut vous faire paraître un nain comme pour un géant. Hein. Et, alors, par exemple, si je reviens à mon histoire de la rédaction, on voit, par exemple, des apports rédactionnels. Si on compare, par exemple, l'expulsion des vendeurs du temple chez Saint-Luc et chez Saint-Marc, on s'aperçoit que chez Saint-Luc, que Luc, qui s'adresse à des païens, va gommer les particularités juives du récit, qui au contraire apparaissent chez Saint-Marc, tandis qu'il va insister sur le fait que Jésus enseignait sous la colonnade du temple. Mais exactement ce que font les grands philosophes païens. Donc on voit que Luc va essayer de présenter Jésus comme comme un philosophe, sous la stoa, donc comme un philosophe païen, parce que pour un lecteur païen d'origine grecque ou romaine, eh ben ça lui parle plus que s'il était sous le figuier. Alors par contre, ça parlera plus à un juif, parce que sous le figuier, c'était les docteurs de la loi qui enseignaient là. Oui, c'est plus poétique. Et puis, autre exemple, l'histoire des braves types qui amènent le paralysé par le toit. Dans Saint-Luc, on dit qu'ils retirent les tuiles. Sauf qu'il n'y a pas de tuiles en Palestine, il y a juste des toits plats qui sont souvent du sort de pisé, quoi, des roseaux qui sont entourés de terre séchée, dans les autres synoptiques, on dit qu'ils pratiquent une ouverture sur la terrasse. Donc, on imagine bien, ils tapent un peu, paf, ça fait éclater la terre séchée, ils écartent les roseaux, et puis ils descendent le bonhomme par là. Tandis que chez Saint-Luc, on n'a pas ce genre de construction à Rome, on va dire qu'ils écartent les tuiles pour accéder au... Donc vous voyez comment selon la communauté à laquelle on s'adresse, on va présenter les choses pour qu'elles soient comprises. Et alors celui qui dira une contradiction entre les deux textes, maintenant il n'y a pas de contradiction, il y a deux interprétations, deux présentations du même fait. Alors maintenant, si on fait une évaluation de la méthode historico-critique, la première chose, c'est de dire quel est réellement un préalable. Donc elle pose des conditions qui permettent l'établissement du sens littéral. Donc vous voyez un petit peu. Alors, c'est la recherche des sources, l'étude des formes, l'élaboration du texte final. On va jusqu'à, on balaye tout cela, et c'est ça qui va servir à la compréhension du texte final, qui est, alors, il faut bien le voir, la Bible forme un tout. C'est pas simplement une collection d'écrits. Mais c'est aussi un tout. Et c'est là que on va passer à une autre dimension et que la méthode historico-critique doit finalement reconnaître sa limite parce qu'elle n'est pas en mesure de présenter l'auteur final. Et l'auteur final, c'est le Saint-Esprit, justement. Donc si on fait par méthodologiquement abstraction de la foi, fatalement, on fait aussi... On doit comprendre que la méthode historico-critique n'est qu'un préalable. Elle ne peut pas dire le dernier mot sur la Bible. Alors justement, les tenants de la méthode historico-critique ont parfois eu tendance à oublier les limites de leur discipline. C'est justement ce que dit la commission biblique. Elle dit « Dans le désir d'établir la chronologie des textes bibliques, ce genre de critique littéraire se limitait à un travail de découpage et de décomposition pour distinguer les différentes sources et n'accordait pas une attention suffisante à la structure finale du texte biblique et au message qu'il exprime dans son état actuel. Ce qui voulait dire qu'on estimait, peu les rédacteurs, autrement dit l'histoire de la rédaction, les rédacteurs finaux, qui précisément, puisqu'ils nous forment, ils nous livrent la dernière version, ils nous livrent aussi la forme canonique, et donc ce qui est précisément à croire. Hein. À la limite, si on arrivait au noyau du texte de je ne sais pas quel livre ou quel événement de la Bible, noyau historique, en fait, on en saurait moins, on aurait moins d'éléments à croire que, par exemple, dans le livre de la Sagesse, qui nous livre une relecture de la sortie d'Égypte, on a plus de matière à croire que dans le simple fait de traverser la mer des roseaux.
Il y a encore actuellement des tenants fermes, des protestants, des gens comme ça, fermes de cette...
Alors, de moins en moins, parce qu'en fait, on est passé de l'hégémonie de l'exégèse protestante allemande, l'hégémonie allemande qui était plutôt historico-critique, une hégémonie anglo-saxonne qui est plus nuancée, en passant par l'école scandinave. Et l'école scandinave est intéressante parce que elle s'est beaucoup intéressée à aux propres traditions scandinaves, qui sont des traditions de survie d'un récit enjolivé par la tradition orale. Donc, en fait, quand on récite 22 000 vers ou 30 000 vers, etc., le texte s'est construit, s'est transmis de manière orale, etc., etc. Et donc, les exégètes protestants, évidemment, scandinaves, se disent que finalement, il y a le travail du rédacteur, le travail, etc., ne sont pas négligés. Ce n'est pas des falsifications, mais ça peut être véritablement un enrichissement du texte. Donc, il y a véritablement un renouvellement. Actuellement, en exégèse, c'est plutôt le monde anglo-saxon actuellement qui l'emporte.
Quelle est leur particularité ?
Alors, leur particularité, c'est d'être plus attentif justement à toutes ces dimensions-là, et en particulier à la valeur canonique du texte. Autrement dit, le texte a été écrit pour que nous croyions, et ils refusent en quelque sorte la réduction historique, donc purement critique, de faire de la Bible un monument historique comme un autre, en somme. Donc ils prennent en considération la finalité même du texte. Parce que là encore, le texte, il a été fait pour être lu et dans une certaine perspective. Et là, ce sont des choses que souvent dans la tradition historico-critique, on disait, un type relate un fait, et puis sans plus. Et puis après, d'autres s'emparent du fait et de son récit pour l'intégrer dans une épopée, une histoire, un truc, un mythe ou autre chose. Tandis que là, on dira peut-être que le texte a été voulu dès le départ dans une telle perspective et construit de telle sorte qu'il puisse être compris comme ça. Donc voilà. Alors, si vous voulez, la méthode historico-critique met en lumière l'épaisseur chronologique, historique des textes, et puis toutes les strates de sens, toutes les relectures. Donc, on obtient, si vous voulez, une vision un peu en relief ou en profondeur des écritures, ce qui facilite l'accès chrétien, puisque d'une certaine manière, nous, on est une relecture supplémentaire, une strate supplémentaire. Mais elle tombe aussi fréquemment dans des préjugés, dans la méthode du soupçon. C'est-à-dire que quand un texte dit une chose, on soupçonne de ne pas dire la vérité.